Vous écoutez On lit pour vous.
Le trou noir de la santé mentale dans les prisons québécoises. Un dossier de Stéphanie Vallet et Félix Deschênes, publié le 13 novembre 2025 dans Le Devoir. Le Devoir a enquêté sur le manque de soins en santé mentale dans les prisons provinciales québécoises. Dans ce premier volet, des soins déficients et répartis inégalement. Les troubles sévères et persistants de santé mentale touchent en moyenne 15 % des détenus dans les prisons du Québec, soit 5 fois plus de gens que dans la population générale. Mais malgré cette surreprésentation, plus de 60 % de ces établissements ne comptent aucun psychiatre attitré, selon les données obtenues par Le Devoir. Les prisons provinciales québécoises abritent au quotidien près de 5 000 personnes. Il s'agit de personnes qui sont accusées d'un crime, mais non libérées sous caution, ou qui purgent des peines de 2 ans moins un jour. Au pays, 7 détenus sur 10 souffrent d'un problème de santé mentale ou d'une dépendance, selon les données de Service correctionnel Canada. Environ 15 % des personnes incarcérées composent avec de graves troubles, comme la bipolarité, la schizophrénie ou le trouble schizoaffectif, des problèmes chroniques qui ont des répercussions majeures sur le fonctionnement. Elles ont généralement besoin de recevoir un traitement pharmacologique et de faire l'objet d'un suivi avec un psychiatre et différents intervenants. C'est vraiment plus de cas que dans la communauté. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de soins pour ces troubles psychiatriques sévères en prison, explique le docteur Mathieu Dufour, psychiatre légiste à l'Institut Philippe Pinel. D'autant plus que, selon le psychiatre, le passage dans un établissement provincial est un moment charnière chez les personnes aux prises avec des troubles de santé mentale. Les besoins y sont souvent plus criants, étant donné que les gens viennent juste d'être arrêtés. Ça fait peut-être des semaines, sinon des mois, qu'ils sont psychotiques, qu'ils ont arrêté leurs médicaments ou qu'ils ont arrêté leur suivi. Une prison sur 2 sans psychiatre. Le Devoir a fait un état des lieux des équipes dans les 16 établissements de détention de la province. Seulement 5 d'entre eux bénéficient de journées de clinique psychiatrique dans leur infirmerie, et aucun ne bénéficie des services d'un psychologue. Selon les données transmises par Santé Québec, un seul compte sur les services d'un psychoéducateur, un autre emploie des criminologues et 3 recours aux services d'intervenants communautaires. Tous les établissements comptent sur des médecins généralistes de garde et emploient une équipe d'infirmières. Isabelle Fortin, la directrice adjointe responsable de la santé mentale et des soins et services carcéraux de Santé Québec, indique faire face à un défi de recrutement. Elle considère que d'autres professionnels que des psychiatres peuvent répondre aux besoins des usagers en santé mentale. On a des infirmières qui ont de la formation en santé mentale, des travailleuses sociales. D'autres professionnels peuvent répondre aux besoins des usagers. Nous avons communiqué avec tous les centres intégrés de santé et de services sociaux, CIS et CIUS, ayant sur leur territoire un établissement de détention sans psychiatre attitré. Tous nous ont indiqué qu'en cas d'urgence psychiatrique, les détenus sont amenés à l'hôpital le plus près de l'établissement où ils se trouvent. Auparavant, les services de santé en milieu correctionnel provincial étaient assurés par le ministère de la Sécurité publique. Entre 2016 et 2022, les services de santé ont été récupérés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette transition a aidé à mieux structurer ces services, mais elle s'est déployée de manière inégale. À Santé Québec, qui chapeaute maintenant ce dossier, on reconnaît qu'il y a beaucoup de travail à faire pour harmoniser les services. On est conscient de la disparité et on souhaite rétablir un équilibre où, peu importe dans quelle région du Québec on est incarcéré, on devrait recevoir le même niveau de soins. On va travailler à améliorer ces pratiques-là, assure Isabelle Fortin. Dépister pour ne pas en échapper. En janvier 2023, Maxime Chiasson, un détenu de 31 ans connu pour des antécédents suicidaires, est retrouvé pendu dans sa cellule du centre de détention de Montréal, anciennement Bordeaux. Dans son rapport, le coroner s'interroge sur la qualité des soins offerts à M. Chiasson au cours de ce qui apparaît être un épisode aigu de désorganisation psychologique dans les jours précédant son décès, ainsi que sur le délai de consultation médicale après une première référence à l'infirmerie. À son arrivée en prison, M. Chiasson est évalué une première fois par un infirmier qui conclut à l'absence d'hallucinations ou d'idées suicidaires. Évalué de nouveau le lendemain, il confie se sentir anxieux, stressé et entendre des voix et des cris dans sa tête. Un médecin de garde prescrit un antipsychotique et exige une surveillance étroite. Le détenu sera retrouvé mort quelques heures plus tard. M. Chiasson n'a jamais consulté un psychiatre, alors qu'il était dans un épisode aigu de désorganisation psychologique depuis plusieurs jours. En l'absence d'un processus systématique de dépistage des troubles de santé mentale par un professionnel de la santé, le médecin généraliste est souvent la première porte d'entrée pour repérer les détenus ayant besoin de voir un psychiatre. Selon les données que nous avons colligées, seuls les établissements de détention de Montréal, de Rivière-des-Prairies, de Saint-Jérôme et de Roberval bénéficient de la présence d'un omnipraticien à l'infirmerie sur une base régulière. Dans les autres prisons du Québec, on parle plutôt d'un jour par semaine, sauf à Sept-Îles et à Baie-Comeau qui n'offrent qu'un service de médecin de garde. Quelques établissements, comme celui de Montréal, compte également des agentes de prévention, d'anciennes infirmières de la prison devenues agentes correctionnelles qui travaillent à analyser les dossiers des nouveaux arrivés. Les détenus utilisent un système de mémo interne pour demander à voir un médecin. Les infirmières en font le triage afin de traiter les demandes les plus urgentes en priorité. On a 1513 patients. Ça peut prendre 4 ou 5 jours pour qu'on arrive à ces mémos, précise Patricia Salazar, une infirmière spécialisée en santé mentale rencontrée à Bordeaux. La docteure Myriam Leblanc, responsable des services externes et des services carcéraux à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel, se rend chaque semaine au centre de détention de Montréal, de Rivière-des-Prairies et de Laval, Leclerc. Elle constate qu'il peut s'écouler plusieurs mois avant qu'un psychiatre ne finisse par rencontrer un patient ayant de graves troubles de santé mentale. On les voit dans un état où ils ne sont même plus capables de parler ou de s'alimenter parce qu'ils sont trop malades. On aimerait pouvoir intervenir avant parce qu'on se retrouve avec des pathologies qui sont rendues très symptomatiques. Tous les experts consultés par Le Devoir recommandent qu'un dépistage systématique et répété des problèmes de santé mentale se fasse dans les prisons provinciales. Dès 2011, le protecteur du citoyen en faisait une des principales recommandations de son enquête spéciale, estimant que cette pratique dès l'admission était essentielle pour développer une vision clinique cohérente, faute de quoi les détenus aux prises avec un problème de santé mentale ont peu de chances de recevoir les services requis. Le docteur Mathieu Dufour insiste également sur le fait que les personnes ayant de graves troubles de santé mentale doivent pouvoir bénéficier de soins multidisciplinaires, comme c'est le cas en société. Le psychiatre ne travaille pas seul, surtout quand on donne des soins pour les troubles psychiatriques sévères. Actuellement, dans les prisons provinciales, on est chanceux si on a une infirmière, peut-être une travailleuse sociale qui travaille avec nous. La docteure Leblanc abonde dans le sens de son collègue, mais elle est consciente que cela nécessite un changement de culture majeur. Les services correctionnels n'ont pas été réfléchis pour répondre à des besoins de santé physique et mentale. C'est une logique de sécurité publique. Mais pour répondre à une mission de sécurité publique, soutient-elle, il faut aussi avoir une mission clinique, puisque répondre aux besoins en santé des individus contribue à diminuer le risque de récidive. Par ailleurs, le protecteur du citoyen mène une nouvelle enquête spéciale sur la gestion des cas complexes dans les établissements, a appris Le Devoir. On regarde quelles seraient les bonnes pratiques pour mieux encadrer les personnes incarcérées qui présentent un profil lié soit à la santé mentale, soit aux troubles de comportement, afin de s'assurer qu'elles puissent plus facilement avoir accès aux soins dont elles ont besoin, explique Marc-André Daoud. Pour Maître Farah Nantel, avocate criminaliste, les soins de santé mentale dans les prisons provinciales sont un peu un trou noir. L'avocate a représenté Joshua Côté-Machala en 2021 et a obtenu un arrêt des procédures dans le dossier de ce client schizophrène qui a poignardé son psychiatre avec une paire de ciseaux. La Cour a conclu que les droits fondamentaux de M. Côté-Machala avaient été bafoués, puisque ce dernier a été privé de médicaments pendant les 5 premiers mois de sa détention. Il est demeuré sous ses couvertures 24 heures par jour, confiné dans une cellule, sans prononcer un mot, en dépit d'une ordonnance exécutoire de la Cour supérieure, indique la requête en arrêt des procédures. Maître Nantel a aussi représenté Vitushan Aran, un homme schizophrène qui a poignardé à mort son père. Elle estime que la détention dans le système provincial ne permet pas la réhabilitation des personnes ayant des troubles de santé mentale. On n'a pas de thérapie, on n'a pas vraiment de prise en charge, donc le résultat n'est pas surprenant au bout de la ligne. La grande majorité des personnes qui passent par ce système vont regagner leur liberté. On doit être capable de leur donner des outils pour qu'elles puissent redevenir des actifs pour la société. C'est un effet boule de neige. On est en train de faire grossir le problème. Finalement, c'est la société qui en paye le prix. C'était le trou noir de la santé mentale dans les prisons québécoises. Un dossier de Stéphanie Vallée et Félix Deschênes, publié le 13 novembre 2025 dans Le Devoir.
Un sursis pour des autruches condamnées à l'abattage. Un texte de Judith Lachapelle, paru le 30 septembre 2025 dans La Presse. Mercredi le 24 septembre 2025, la Cour suprême du Canada a accueilli une injonction pour suspendre l'abattage d'environ 300 autruches dans une ferme de la Colombie-Britannique. Un nouveau rebondissement dans une affaire qui a des échos jusque dans le mouvement MAGA aux États-Unis. Quelle décision la Cour suprême a-t-elle rendue le 24 septembre? Les propriétaires de la ferme d'autruche Universal Ostrich Farms, située à Edgewood, en Colombie-Britannique, se sont adressés à la Cour suprême dans une ultime tentative pour sauver leur troupeau de l'abattage. La Cour suprême a ordonné une suspension temporaire de l'ordre d'abattage le temps que ses juges décident s'ils entendront l'appel. Pourquoi le troupeau fait-il l'objet d'un ordre d'abattage? En décembre 2024, une inspection menée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ACIA, a détecté que deux des autruches étaient atteintes de grippe aviaire H5N1 et que 69 oiseaux en étaient morts. Un mois auparavant, un premier cas de transmission de grippe aviaire à l'humain avait été découvert en Colombie-Britannique chez une adolescente. L'ACIA a ordonné l'abattage du troupeau pour contenir l'épidémie qui sévit depuis plusieurs mois dans la province. Les propriétaires, eux, s'y opposent vigoureusement. Comment les propriétaires résistent-ils à l'ordre d'abattage? Leur opposition à l'abattage a fait le tour des réseaux sociaux où ils ont trouvé plusieurs appuis dans la mouvance libertarienne et chez les défenseurs des animaux. En mai, le secrétaire américain à la santé, Robert F. Kennedy, fils, a même écrit au président de l'ACIA pour lui demander de ne pas abattre le troupeau. D'autres vedettes du mouvement MAGA ont appuyé les propriétaires dans leur opposition aux autorités sanitaires canadiennes. Justement, le docteur Mehmet Oz et un commentateur conservateur ont proposé de sauver les autruches canadiennes et de les amener dans des ranchs de l'Oklahoma, de la Floride ou du Texas. Est-ce une réelle possibilité? Non. D'abord parce que le troupeau est gardé par des agents de l'ACIA et que des policiers de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, empêchent toute personne non autorisée, y compris les propriétaires de la ferme, de s'approcher. Ensuite, en supposant que l'opération permette de mobiliser suffisamment de camions pour transporter les centaines d'autruches, ceux-ci seraient vraisemblablement arrêtés à la frontière. Les États-Unis en ont déjà plein les bras avec cet épis outil qui a plombé leur industrie avicole. La hausse importante du prix des œufs ces dernières années est en partie attribuable à l'épis outil de grippe aviaire. Les animaux sont-ils encore malades? Pourquoi ne pas abattre seulement ceux qui sont porteurs du virus? Ça fait longtemps que ces animaux ne sont plus malades, dit le médecin vétérinaire Jean-Pierre Vaillancourt, professeur à l'Université de Montréal, qui suit le dossier de très près. Le problème, c'est que toutes les autruches du troupeau doivent être considérées comme porteuses du virus, et même, et surtout, les animaux en pleine forme qui peuvent être des porteurs sains. Et puis, les autruches ne sont pas isolées dans un bâtiment. Elles vivent dehors, au grand air, où elles peuvent être en contact avec des oiseaux sauvages infectés. La CIA ne peut pas garantir à la communauté internationale que les autruches ne sont plus exposées au virus, dit le docteur Vaillancourt. Donc, dans ces conditions, l'abattage reste la solution privilégiée. S'il s'agissait d'une race d'autruches très rare, il y a des choses que l'ACIA aurait pu faire, dit le docteur Vaillancourt. Mais ce n'est pas le cas ici. Le Canada, en tant que membre de l'Organisation mondiale de la santé animale, s'est engagé à éradiquer le virus de la grippe aviaire lorsqu'il est détecté chez des animaux domestiques et d'élevage. En gros, dès qu'un test est positif, c'est tout le troupeau qui doit être abattu. Et tant que la circulation du virus n'est pas contrôlée, les marchés d'exportation sont bloqués. Quel est le danger pour la santé humaine? Le risque est faible, mais en laissant le virus circuler chez les animaux, ça peut faire en sorte qu'éventuellement, le virus pourrait muter, dit le docteur Vaillancourt. Quand on retarde l'abattage de troupeaux, c'est exactement la recette pour que les maladies se propagent dans un pays, renchérit le professeur retraité Sylvain Kessy de l'Université de Montréal. Qu'en pensent les défenseurs des animaux? L'antenne britannico-colombienne de la SPCA s'en remet à l'autorité de l'ACIA, tout en reconnaissant que le recours à l'abattage peut être approprié dans certains cas où une maladie animale représente un danger pour la santé publique. C'est aussi l'avis de l'antenne montréalaise. Pour justifier ce type d'opération, il est impératif que la menace à la santé publique soit réelle, sérieuse, bien documentée, qu'il n'y ait aucune alternative viable à la mise à mort des animaux et qu'il y a véritablement urgence d'agir, dit l'avocate Sophie Gaillard de la SPCA de Montréal. Comment a été accueillie la décision de la Cour suprême? Avec scepticisme par les experts, qui doutent fort que la Cour ne décide d'entendre la cause. Une minorité des dossiers soumis sont entendus par le plus haut tribunal du pays, ou qu'elle puisse infirmer la décision de la CIA. Sophie Gaillard de la SPCA se réjouit que la Cour ait jugé nécessaire de se pencher sur le sort de ces autruches. L'intervention de la Cour suprême du Canada pour ordonner un sursis dans ce cas indique qu'il y a certainement des arguments sérieux à faire valoir pour annuler l'opération de dépeuplement envisagée par la CIA. Nombre de foyers d'infection de grippe aviaire au Canada, source ACIA, en date du 24 septembre 2025. Alberta, 5. Colombie-Britannique, 1. Québec, 1. Île-du-Prince-Édouard, 1. Saskatchewan, 1. C'était un sursis pour des autruches condamnées à l'abattage. Un texte de Judith Lachapelle, paru le 30 septembre 2025 dans La Presse.
Le choix. Un texte de Michael M. Fortier, paru le 9 octobre 2025 dans La Presse. Michael M. Fortier est banquier et ex-ministre dans le gouvernement Harper. La sortie d'Andrew Lutfi en septembre 2025 sur l'importance de permettre à certaines entreprises de bénéficier d'exceptions pour le recrutement de travailleurs spécialisés étrangers a suscité beaucoup de réactions. Certains y ont vu le cri du cœur d'un entrepreneur découragé des aléas administratifs qui fragilisent son entreprise, alors que d'autres ont plutôt décrié une façon cavalière de marginaliser l'importance du français en milieu de travail. Le style de M. Lutfi, plutôt direct, est assez répandu dans le monde des affaires. Rarement entouré d'experts en communication, ces entrepreneurs n'ont pas le réflexe de polir leur message pour obtenir l'adhésion du plus grand nombre. Et selon moi, c'est tant mieux. Ce milieu ne s'exprime pas assez souvent au Québec, je préfère qu'il le fasse sans filtre. Il y a à peine une génération, le Québec comptait peu d'Andrew Lutfi. Ils sont maintenant plus nombreux, à des échelles différentes, bien entendu. L'émergence de cette classe de gens d'affaires avec d'importants tentacules à l'étranger oblige à prendre acte de leur réalité. Certains œuvrent dans des secteurs où l'expertise québécoise abonde, alors que d'autres doivent recruter plus fréquemment hors Québec. Et pour tous les Lutfi de ce dernier groupe, le défi n'est pas simple. Accueillir un nouvel employé comme haut dirigeant signifie habituellement des bouleversements et pas toujours des résultats probants. Mais lorsque les talents recherchés ne se trouvent pas dans l'organisation, il faut bien les dénicher quelque part. Intégrer de nouveaux employés est déjà compliqué. Il faut multiplier la tâche par 10 s'ils ne parlent pas français, ne connaissent pas Montréal et atterrissent avec un conjoint et des enfants. Avant de demander des aménagements aux règles touchant l'immigration et la langue, sachez que ces entrepreneurs ont nécessairement épuisé toutes les autres avenues. Je n'en connais pas un qui, à talent égal, ne préférerait pas engager Marie-Paul de Gatineau plutôt que Brenda de Boston. Contrairement à ce qu'avait maladroitement laissé entendre le Parti québécois, les ajustements que souhaite M. Lutfi ne relèvent pas d'un caprice. Les cas comme ceux que soulève M. Lutfi sont peu fréquents. On ne parle pas de milliers d'étrangers qui débarquent au Québec pour infiltrer ces entreprises. Ces top qui possèdent un talent pointu pourraient travailler n'importe où. S'ils s'intéressent à une entreprise québécoise, c'est à coup sûr parce qu'elle opère à l'international à une échelle importante. Oui, nous en comptons plusieurs au Québec, mais encore faut-il qu'elle cherche à recruter un dirigeant de l'externe. Quand on applique ces filtres, on constate que le gouvernement pourrait aisément gérer ce problème sans ordonner des États généraux. Il pourrait, en consultation avec le milieu des affaires, établir des critères, taille de l'entreprise, pourcentage des ventes à l'étranger, etc., qui encadreraient ces recrutements. Rien ne devrait être laissé au hasard pour ne pas forcer des entrepreneurs à plaider l'exception devant une tablée de fonctionnaires anonymes à Québec. Ceux qui s'inquiètent pour l'avenir du français en milieu de travail exagèrent grossièrement l'impact du recrutement d'un unilingue anglophone dans une organisation. Je suis toujours étonné d'entendre ces voix, pour plusieurs n'ayant jamais travaillé dans le secteur privé ni au sein de la grande entreprise. Dès qu'ils mentionnent les mots « nation » et « français », tous les autres devraient se taire, à défaut d'être accusés de vouloir poursuivre l'œuvre de Lord Durham. Brenda de Boston, qui s'installe à Montréal avec sa famille, ne cherchera pas à bouleverser l'univers corporatif autour d'elle. Elle sait que ses succès dépendront beaucoup de son équipe. Elle ne l'obligera pas à se convertir au protestantisme ou à écouter « The Year I Turn Pretty ». Elle communiquera avec elle en anglais et les documents qui lui sont destinés seront rédigés dans la même langue. Mais je suis porté à dire « so what ». S'il s'agit d'une entreprise avec une vocation internationale, permettez-moi de présumer que l'on fait déjà usage de l'anglais. Les francophones dans l'entreprise n'arrêteront pas de parler français, d'écouter Paul Piché ou de fréquenter le TNM. Les objections des disciples de la ligne dure ne tiennent pas la route, surtout si un encadrement est prévu pour éviter les débordements. Ils négligent aussi de tenir compte des avantages qui découlent, pour une équipe, de travailler pour un top dans un métier. Les connaissances et l'expérience acquises pourraient permettre à plusieurs de s'épanouir au sein de l'entreprise ou ailleurs. Si la réglementation force une personne recrutée à rester à l'étranger pour exercer ses fonctions, ses subalternes seront confrontés à des choix difficiles. L'y rejoindre pour se rapprocher du centre décisionnel ou rester au Québec et risquer la marginalisation. Dans le premier cas, je vois mal comment le Québec est bien servi par un exode de talents, et dans le deuxième, les employés finiront par partir et les postes vacants seront possiblement pourvus à l'étranger. J'aimerais comprendre comment ces scénarios aident la nation. C'était « Le choix », un texte de Michael M. Fortier paru le 9 octobre 2025 dans la presse.